unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst et Magali Lafourcade, produite par Amicus Radio.
Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, nous aborderons l'importance de la société civile et les menaces croissantes qui pèsent sur l'espace civique. Bien sûr, nous définirons ce qu'est l'espace civique. Nous nous arrêterons sur une dimension particulière, sournoise et en plein essor, celle des procédures Bayon. L'espace civique est l'environnement qui permet à la société civile de jouer un rôle dans la vie politique, économique et sociale de nos sociétés. L'apport des associations, des syndicats et encore des défenseurs des droits humains et de l'environnement est bien sûr considérable. Ces organisations, ces personnes contribuent à l'élaboration de politiques publiques. Elles participent en diffusant des informations, en instaurant un dialogue avec les autorités ou avec les acteurs privés et en s'unissant aussi pour exprimer leur point de vue et bien sûr aussi en exprimant leur désaccord. Les Nations Unies rappellent qu'un espace civique ouvert et pluraliste, qui garantit la liberté d'expression et d'opinion ainsi que la liberté de réunion et d'association, est indispensable pour garantir le développement et la paix durable. Pourtant, de nombreux rapports récents des Nations Unies indiquent que ces dernières années, l'espace civique est de plus en plus menacé par l'augmentation des lois répressives et par les restrictions croissantes sur la liberté d'expression, de participation, de réunion et d'association, mais aussi par l'intervention de certains acteurs privés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Tiphaine Baudelomeni. Bonjour Tiphaine.
Bonjour Magali.
Tiphaine, tu participes à la coalition européenne contre les procédures Bayon, qu'on appelle aussi CASE, et tu es aussi responsable de contentieux et de plaidoyer sur la protection de l'espace civique à Sherpa. Alors Tiphaine, je voudrais te poser une première question un peu générale. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'une réduction de l'espace civique et selon toi, quelles en sont les principales manifestations ?
Effectivement, on parle aujourd'hui d'une réduction de l'espace civique dans la mesure où les défenseurs des droits et de l'environnement qui participent au débat public sur des questions d'intérêt général, que ce soit des journalistes, des lanceuses ou lanceurs d'alerte, des militants, des associations, sont de plus en plus souvent la cible de tactiques et de lois et de pratiques répressives qui visent à les empêcher finalement de mener et de jouer leur rôle de contre-pouvoir dans le débat démocratique.
De contre-pouvoir et de force de proposition également.
Tout à fait.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est aussi le revers du succès de ces militants, de ces activistes, hein, qui ont acquis une expertise, qui ont su porter un plaidoyer tous azimuts, politique, juridictionnel, et bien sûr au niveau de l'opinion publique, et finalement qui ont obtenu une véritable reconnaissance internationale pour leur apport ?
Tout à fait. Je pense que c'est le revers de la médaille, finalement. Plus ces acteurs sont visibles, plus ils portent une voix contestataire, plus ils apportent du débat, du pluralisme, plus, effectivement, ils vont être ciblés par les puissances économiques, les pouvoirs politiques qui se sentent, de fait, menacés parce qu'ils vont mettre en évidence des discriminations, des inégalités et une remise en cause du système qui pose problème et qui dérange.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'autrefois de masquer des exactions, des atrocités sur les droits humains, mais aussi des écocides. On a une capacité à identifier et à imputer aux autorités ou aux acteurs privés qui les commettent les dégâts. Et donc, c'est cette capacité-là également qui suscite un tel niveau de défiance.
Oui, je pense que notamment l'avènement des réseaux sociaux, du numérique, a permis de rendre beaucoup plus facilement visible toute une série d'exactions, les messages qui sont portés par ces acteurs. Et puis on a eu un développement assez important, notamment du journalisme d'investigation et d'activités qui ont permis de mettre en évidence effectivement le rôle des acteurs privés ou des institutions dans la répression des mouvements sociaux. Et effectivement, ça a mené à une plus forte visibilisation, mais de fait aussi une plus forte répression de tous ces mouvements.
Alors du coup, je voudrais aller donc sur le terrain des SLAP, puisque donc c'est un sujet qui est encore peu connu et pourtant très bien connu des grands acteurs privés et de certains acteurs publics. Les SLAP, c'est un acronyme, c'est traduit en français par procédure Bayon. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire en termes de concept, d'émergence et d'illustration ?
Alors, le concept de SLAP, effectivement, qui veut dire une gifle, littéralement, en anglais, c'est un acronyme qui recouvre ce concept de Strategic Lawsuits Against Public Participation, donc les poursuites stratégiques altérant le débat public en français. C'est un concept qui a été formulé dans les années 80 par deux chercheurs d'une université américaine, de l'université de Denver. Et c'est un concept qui décrit finalement la pratique qui vise à intimider sur le terrain judiciaire des personnes qui exercent légitimement leur liberté d'expression. Et la seconde particularité de ces procédures Bayon, c'est qu'en réalité, la finalité de la procédure, ça n'est pas de faire valoir un droit sur le terrain juridique, mais véritablement de faire taire la cible des poursuites et de générer un effet d'autocensure au sein de la société civile. Parce que c'est vraiment ça la clé, c'est que la multiplication des poursuites visant des journalistes, des lanceuses d'alerte, des militants, va créer un effet de crainte, un effet de boule de neige au sein de la société civile, qui va s'autocensurer par crainte d'être cible de représailles par la suite.
Et donc, en fait, on constate que c'est une instrumentalisation de la justice, non pas dans un but donc des classiques, des poursuites civiles ou pénales qui peuvent être intentées contre un individu ou une association, mais vraiment, le but, c'est d'intimider la partie défenderesse, d'obtenir son silence, de l'épuiser peut-être aussi moralement et financièrement. Donc, on voit que finalement, si tout ça est fait, c'est parce qu'il y a un certain succès à ces actions. Comment tu analyses l'évolution de ce type de procédure et leur nature?
Tout à fait. Alors, sur l'effet des procédures, je pense qu'effectivement, il faut bien comprendre que parce que ce sont des procédures qui n'ont pas pour finalité de gagner sur le terrain judiciaire, mais d'épuiser les cibles financièrement, psychologiquement, de prendre leur temps finalement, en les soumettant à un procès qui va être très long, très coûteux, les procédures jouent sur une forme d'inégalité des armes finalement entre les parties, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté une multinationale, une personnalité publique influente qui va poursuivre des activistes, des journalistes, des associations sur différents terrains, parfois à plusieurs reprises, soit dans le temps, soit dans l'espace. Il va y avoir des phénomènes de tourisme judiciaire notamment, beaucoup. Et donc cette disproportion de ces poursuites va finalement obliger les personnes à accorder un temps faramineux à leur défense.
Et de ne pas consacrer leur énergie.
Et de pas consacrer finalement leur énergie à la cause qu'elles défendent, au débat d'intérêt public, etc., etc.
Tu pourrais me donner quelques exemples de types de procédures qui ont pu être intentées dans les années récentes?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un phénomène qui est global. On le retrouve dans énormément de pays. Il y a plusieurs recensements qui ont été effectués et qui ont permis d'identifier un certain nombre de procédures.
C'est ce que fait CASE, notamment, ces recenses.
Oui, notamment, c'est le travail qui a été mené par la coalition CASE. Entre 2010 et 2021, dans une trentaine de juridictions européennes, on a eu 570 cas de procédures Bayon. À l'échelle internationale, il y a aussi des recensements qui ont été effectués, notamment par le Business and Human Rights Resource Center, où là, pareil, on a plusieurs centaines de cas qui ont été identifiés depuis 2015.
Et quels sont les critères pour identifier une procédure comme étant procédure Bayon? Parce qu'elle n'a pas l'apparence d'une procédure Bayon. Elle a bien sûr l'apparence d'une procédure classique pour la reconnaissance de l'effectivité d'un droit.
Alors, tout à fait. Alors, les deux critères vraiment fondamentaux pour identifier une procédure Bayon, c'est d'une part une procédure qui vise un acte de participation au débat public sur une question d'intérêt général. Donc, ça peut être des questions de corruption, des atteintes à l'environnement, de la pollution. Donc ça va être une poursuite qui, a priori, va viser un journaliste, un média, un activiste, mais ça peut être aussi un blogueur, et donc un acte de participation au débat public. Donc ça peut être une publication, un rapport, un article, même un tweet sur les réseaux sociaux. Voilà. Quel que soit l'acte de participation au débat public, ça peut être aussi des actes de désobéissance civile, des manifestations. Et le deuxième grand critère de cette procédure Bayon, c'est effectivement l'objectif de porter atteinte au débat public, de faire taire la cible. Et ça, ce critère-là, on va l'identifier de plusieurs façons. Il y a plusieurs manifestations de cet aspect-là. Le premier aspect, ça va être la répétition des poursuites, soit dans le temps, soit dans l'espace, soit sur un nombre important de cibles. Donc on va poursuivre à la fois un journaliste qui rapporte la mobilisation d'une communauté ou d'un activiste. on va multiplier le type de poursuite. Donc, on va utiliser différents fondements. Ça peut être très souvent de la diffamation, mais ça peut être aussi du dénigrement commercial, une atteinte au secret des affaires, une atteinte à la protection des données personnelles. Mmh. Et puis, on va avoir aussi des procédures qui vont être complètement disproportionnées. C'est-à-dire que, finalement, l'auteur de la poursuite, la multinationale, l'entreprise, la personnalité publique, va exploiter l'inégalité des armes. Donc, elle va faire des demandes de dommages et intérêts qui vont être
démentielles,
particulièrement conséquentes. Je pense notamment à un cas, c'est le cas de l'entreprise Tamakasset, qui est une entreprise avicole en Thaïlande. Et alors, typiquement, cette entreprise, le Business and Human Rights Resource Center, a identifié, depuis 2015, plus d'une trentaine de poursuites contre des activistes.
Émises par la même entreprise.
Émises par cette même entreprise, Tamakasset, contre différents activistes, avec certaines des demandes de dommages et intérêts dans l'une des procédures, qui s'élèvent à plus de 5 millions de bahts thaïlandais, ce qui est l'équivalent de plus de 130 000 euros. Donc, pour une seule procédure en diffamation visant un activiste. Donc c'est typiquement une demande de dommages et intérêts qui est absolument démentielle. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques de la procédure Bayon qui est fondamentale, c'est cette exploitation de l'inégalité des armes par l'auteur des poursuites.
Et alors, comment réagissent les institutions judiciaires ou administratives qui sont saisies de ces procédures? Alors, bien sûr, les systèmes juridictionnels sont très différents d'un pays à l'autre, mais est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent?
Alors, on a des tendances qui se dessinent. Malheureusement, la plupart des juridictions ne sont pas parfaitement outillées pour répondre à ce type de pratique. Il y a quelques pays qui ont adopté des législations visant à lutter contre les procédures Bayon, mais dans la plupart des juridictions, ça reste un problème qui n'est pas nécessairement adressé par le législateur. Donc on voit des juridictions où tout de même les magistrats saisis de ce type de procédure commencent à essayer de réagir, commencent à essayer de sanctionner, notamment sur le fondement de l'abus, ce type de procédure Bayon. Mais ça reste assez compliqué.
Quand il y a des législations qui traitent de ce problème, comment elles le traitent?
Alors, typiquement, elles viennent définir la procédure Bayon comme étant un abus de la procédure. Donc elles qualifient l'abus au regard de l'objectif et de la finalité de censure de la procédure.
Et en conséquence, donc, ça veut dire plainte irrecevable ou sanctions financières du style amende civile pour avoir abusé des moyens de la justice?
Il va y avoir plusieurs réponses possibles. Le mécanisme qui est le plus courant, notamment aux États-Unis et au Canada, c'est de permettre un rejet rapide de la procédure. C'est-à-dire que la personne qui est ciblée par des poursuites va pouvoir invoquer cet abus au regard de l'objectif de censure et demander au juge d'exclure la procédure et de la faire sortir définitivement des prétoires. D'autres mécanismes de protection existent, je pense notamment en Australie, où là on a simplement interdit aux grandes entreprises de poursuivre sur le fondement de la diffamation des activistes ou des journalistes. Voilà. On considère que les entreprises ne peuvent pas poursuivre sur ce fondement.
Et est-ce que du coup, CASE essaye de faire de ces législations des modèles laws, hein, c'est-à-dire donc des lois qui peuvent avoir vocation à essaimer dans d'autres systèmes juridiques en faisant un plaidoyer politique pour pouvoir faire que d'autres États s'en inspirent?
Tout à fait. Donc la coalition CASE, qui regroupe une quarantaine d'organisations, de journalistes, de protection de l'environnement, de lutte contre la corruption, s'est mobilisée depuis 2020 auprès des institutions européennes pour pousser à l'adoption d'une directive qui permettrait de lutter contre les procédures Bayon au sein de l'Union européenne.
Donc directement dans l'espace régional et qui sera ensuite transposée dans les législations nationales. Donc ce serait assez efficace.
Ce serait idéalement assez efficace.
Mais est-ce qu'on a une prévisibilité d'adoption de la directive? C'est toujours un long processus.
C'est un très long processus. Alors, pour le moment, on a un projet de directive qui a été présenté par la Commission en avril 2022. Mm-hmm. Et le travail législatif a commencé cette année.
On est en phase de comitologie?
Exactement. On a déjà eu une orientation générale des États membres réunis au sein du Conseil. qui malheureusement est revenu sur une partie des protections qui avaient été prévues par le texte de la Commission. C'est pour ça qu'en France, on s'est mobilisé ces dernières semaines pour pousser notamment le gouvernement français et lui demander d'être un petit peu plus ambitieux dans le cadre des trilogues qui vont s'ouvrir donc, entre Parlement, Commission et Conseil à partir de juillet. On a rédigé une tribune qui a été co-signée et portée par plus d'une centaine d'organisations, dont 27 sociétés de journalistes. Donc un soutien très fort au texte, dans l'espoir de le voir aboutir peut-être l'année prochaine, en 2024.
Et donc du coup, 2 ans de transposition, ça ferait donc du 2026 dans les législations nationales. Et donc là, on voit qu'il y a une mobilisation au niveau de l'Union européenne, c'est très bien. C'est aussi quelque chose à surveiller, j'imagine, dans l'espace du Conseil de l'Europe. Mais au-delà, au niveau universel, au niveau des Nations Unies, on a la Convention Aarhus et le rapporteur spécial des Nations Unies, dont le mandat sur la protection des défenseurs des droits de l'homme inclut évidemment ce volet de protection des défenseurs qui seraient injustement traînés devant les tribunaux. Alors, il y a aussi une mobilisation des acteurs de la société civile qui est plus sur le terrain de l'opinion, le terrain politique. C'est ce que vous appelez l'effet Streisand. Est-ce que tu pourrais m'en parler ?
Tout à fait. Il y a eu une mobilisation finalement assez forte de la société civile, que ce soit en France, en Europe ou dans d'autres pays, avec de nombreuses coalitions qui se sont créées pour soutenir les cibles de procédure Bayon et leur apporter un soutien, qu'il soit psychologique, financier, juridique, pour les aider à sortir finalement de l'isolement et de l'effet de censure généré par les procédures Bayon. Et donc, dans ce contexte-là, on a constaté que, très souvent, les procédures qui, finalement, visent à faire taire, à museler, à cacher des informations, peuvent avoir un effet complètement inverse, parce qu'en réalité, ça va susciter l'intérêt du public, l'intérêt d'autres organisations, d'autres journalistes qui vont vouloir se saisir du sujet. Et finalement, on part d'un sujet, d'un débat d'intérêt général, d'une problématique de pollution, de corruption qu'un acteur essaye de cacher, et en essayant de cacher, en poursuivant, il suscite une mobilisation collective qui va rendre bien plus visible le sujet qu'il ne l'avait prévu au départ. Et c'est effectivement ce qu'on appelle l'effet Streisand.
Et tu m'avais raconté que la première fois où ça avait été très majeur, c'était quand il y a cette journaliste maltaise qui travaillait sur la corruption, qui a été assassinée, et que qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Il y a eu un ensemble de journalistes d'investigation qui ont repris le travail. Tu peux nous en dire un mot ?
Tout à fait. Il y a un collectif de journalistes d'investigation qui s'appelle Forbidden Stories, qui reprend les investigations et les enquêtes de journalistes assassinés ou empêchés de poursuivre leur travail.
Et qui leur donne une résonance.
Et qui leur donne une résonance internationale à rebours
de l'idée initiale,
de l'idée initiale qui était de les faire taire. Tout à fait.
Merci beaucoup Tiffaine, c'était très clair.
Merci à toi.
Ce que je retiens de cet échange avec Tiffaine Baudelomeni de la coalition CASE et de Sherpa, c'est que l'espace civique paye en fait la qualité de son travail et l'impact qu'il arrive à produire en portant très haut des causes avec énormément d'expertise par un ensemble de modalités dont les SLAP sont une des manifestations les plus perverses, puisqu'il s'agit d'instrumentaliser la justice et d'instrumentaliser une inégalité des armes, comme l'a très bien expliqué Tiffaine, pour faire taire, amener au silence des personnes qui pourraient utilement porter des informations dans le débat public. On voit aussi que la communauté internationale s'organise, les espaces régionaux comme l'Union européenne, les Nations unies sont bien informées de cette évolution, et surtout, encore une fois, l'inventivité des acteurs de la société civile est absolument remarquable, puisque en se mobilisant dans une très grande solidarité, ils arrivent à faire émerger des histoires qui auraient pu être passées sous silence, justement, du fait d'actions meurtrières ou d'abus juridictionnels commis par des acteurs privés ou publics.
Je vous propose d'écouter aujourd'hui une juriste engagée dans un collectif qui utilise toutes les armes du droit face au comportement des grandes entreprises internationales.
Donc, moi, je suis bénévole pour une organisation qui lutte contre les changements climatiques grâce au droit et qui lutte pour la justice climatique en général. Et dans le cadre de notre travail, on s'attaque notamment à des multinationales dans le secteur de l'énergie, de la grande distribution, des énergies fossiles et du secteur financier en général. Et ce qu'on constate, c'est que dans les différents contentieux qu'on met en place, la charge et les moyens des parties n'est pas du tout équitable, puisqu'évidemment, ils disposent de beaucoup plus de moyens que des organisations en général. Et ce qui fait que ça peut ralentir les procédures excessivement, qu'il soulève des incidents de procédure systématiquement qui n'auraient pas forcément d'intérêt juste pour ralentir le temps de la justice. Et ça fait qu'il y a des contentieux qui ont pu être engagés il y a 5, 6, 7 ans et qu'on n'a toujours pas de décision. Donc ça, forcément, ça porte atteinte au procès équitable en général et à l'égalité des armes. Et puis au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'ils disposent de beaucoup plus de moyens. Donc c'est plus facile d'assaillir les juridictions, de contre-expertise, de multitudes de documents qui n'ont pas toujours un intérêt avec le procès, etc. Et forcément, ça bloque en fait toute possibilité d'avoir une décision sur le fond et même juste d'avoir lumière sur certaines questions qu'on soulève. Donc c'est problématique, on n'arrive pas à faire valoir, même à travers la justice, les différents enjeux qu'on peut défendre pour différentes parties ou même pour les individus en général. Et donc ça bloque complètement l'accès à la justice.
Merci beaucoup de votre écoute. Dans le prochain épisode, nous aborderons avec Michel Forst la question des catégories des défenseurs de l'environnement, leur définition, mais aussi ceux qui sont particulièrement ciblés, menacés du fait de leur genre, du fait de leur âge ou du fait de leur appartenance aux populations autochtones. Merci infiniment.
Au revoir.
Cette émission a été préparée et présentée par Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio. Vous pouvez écouter librement toutes nos émissions sur le site d'Amicus Radio et vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode.